Journal des élections, un espace de diffusion d'informations liées au processus électoral en RDC. Agenda électoral, enrôlement des électeurs, rétrospective de la semaine et plus encore. Suivez ce magazine chaque vendredi dès 15h30 à 16h sur Radio Capi.
Bien, en République démocratique du Congo, le milieu universitaire n'est pas épargné par la corruption. Pour passer d'une promotion à une autre, certains étudiants négocient des points, moyennant de l'argent. On parle aussi des points qui s'échangent contre le plaisir sexuel, les points sexuellement transmissibles. Et pour bon nombre d'observateurs, ce phénomène a un impact négatif sur la qualité de la formation des futurs cadres du pays. Alors comment lutter efficacement contre la corruption en milieu universitaire ? C'est le thème que nous abordons aujourd'hui dans Okapi Service. Vous avez des questions et préoccupations, n'attendez pas les dernières minutes, le standard est déjà ouvert. Composez les 099 706 63 94 et nous allons vous rappeler pour participer à cette émission de la vie au quotidien. Nous avons sur ce plateau Monsieur l'abbé Marcus Bindungwa, il est professeur, il enseigne la philosophie à l'Université Pédagogique Nationale. Encore une fois, bonjour Monsieur l'abbé.
Bonjour, jeudi.
Alors, d'après vous, quelles sont les causes, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui la corruption a même gagné le milieu universitaire?
Bon, je pense d'abord que nous avons un problème culturel de fond, un problème de valeurs qui révèle les limites de notre société en matière d'éducation, de formation des jeunes, d'enseignement, l'initiation à la connaissance et à la pratique des valeurs. Il y a une valeur qui est devenue très rare chez nous, c'est la méritocratie. Donc,
quand elle est devenue très rare.
Oui, quand on va ailleurs, on rencontre même des jeunes très jeunes qui sont fiers de s'en tenir, de ne s'en tenir qu'à à ce qu'ils ont mérité comme comme c'est pas moi cote en vertu de leur travail intellectuel, en fonction de leurs efforts. Mmh. Mais ici chez nous, c'est tout le monde qui croit qu'il doit nécessairement réussir, même quand il n'a pas travaillé. Voilà pourquoi, on se glisse un peu dans cette tendance de la corruption généralisée, où même l'étudiant qui sait qu'il est le plus idiot, excusez-moi le mot,
mais le plus faible de la promotion.
Oui, voilà, mais il croit que il faut qu'il réussisse, mais parfois qu'il réussisse avec distinction, vous voyez, donc il y a ce problème.
Et ça choque même ses collègues qui savent que c'est un paresseux, il ne travaille pas, il bosse pas, il passe tout le temps dehors.
Un absentéiste, oui.
Oui, voilà. Et puis à la fin, il a distingué.
Ouais. Bon, il y a beaucoup de techniques là-dessus. Il y en a notamment qui s'arrangent pour que, bon, à la première session. Qui voit un peu la tendance, même au niveau de fin de cycle. Des étudiants parfois ne déposent pas leur mémoire TFC, en attendant voir la tendance de côte, avoir la possibilité de corriger cela à la deuxième session et pas nécessairement par un examen à reprendre, mais notamment en utilisant tout un réseau de trafic d'influence, tantôt avec l'argent quand il s'agit d'une corruption financière, tantôt avec une corruption morale où on voit des pratiques comme des explications données aux professeurs, j'étais malade, j'en ai des problèmes en famille, etc., de la flatterie, des jeunes gens qui dès que le professeur descend du véhicule à cours pour
on commence à l'encenser
pendant le cours, le meilleur prof, etc. Voilà. Tout ça, c'est
on va transporter son sac.
Son sac, oui. Tout ça, c'est pour
le flatter.
Oui, on rappelle qu'on est frère ou sœur, nièce, neveu de X, de Y, qu'on vous connaît depuis longtemps, qu'on vous apprécie beaucoup, et tout ça, c'est pour arriver à changer leur sort. Quoi.
Voilà. Alors, quelles sont les formes de corruption qui existent aujourd'hui dans nos universités?
J'ai déjà commencé.
Vous avez déjà cité quelqu'un.
Donc, il y a la corruption financière qui est là.
C'est ça qu'on appelle le branchement, le phénomène de branchement.
Oui, où l'étudiant donne de l'argent tantôt directement au professeur, tantôt à un réseau qui passe par souvent les chefs de promotion, ou bien par un assistant, un chef de travail qui travaille avec le professeur, etc. Donc, il y a ce premier réseau là, c'est ce premier type de corruption.
Des corruptions, branchement.
Il y a la corruption sous forme de points sexuellement transmissibles qu'on retrouve souvent chez les jeunes filles. Bon, ça peut partir de la fille elle-même, tout comme ça peut partir du professeur qui exige ceci, cela. Donc, une relation sexuelle pour donner de points. Bon, et puis il y a d'autres types de corruption.
Les morale. Enfants d'abord, on parle aussi des les enfants d'abord.
C'est une autre forme de corruption. Où vous avez pratiquement un collègue professeur, parfois même aîné, bien expérimenté, de grandes valeurs morales, mais bon, pour le cas de son enfant, de son neveu, de ses, qui vient.
Le professeur s'envoie des petites notes, hein, pour
négocier
dire.
Négocier auprès de différents collègues pour obtenir que ce garçon, que ce fille, cette fille plutôt puisse passer des classes, qu'on tienne compte.
Certains disent même que les loups ne se mangent pas entre eux, donc les enfants de professeurs doivent absolument passer des classes avec grande distinction.
Oui. Notamment avec la chance d'être retenus comme des assistants et de prendre demain la place de leurs parents. Pour ceux qui sont forts, mais il y en a qui ne sont pas forts, qui ne peuvent pas aller jusqu'à terminer un troisième cycle, mais bon, qui sont quand même là comme assistants. Et quand on regarde le nom entre les professeurs et les assistants, de temps en temps, on voit bien que tel nom, c'est le même qui est ici, et voilà, donc.
Il y a aussi les tribalismes. On dit, bon, tous les étudiants de tel village, on va se retrouver avec les profs de notre village quelque part, et puis on va se donner des points là-bas.
Malheureusement, malgré toute l'instruction intellectuelle qui devait nous amener à un dépassement ces appartenances des liens sanguins, et malgré tous les enseignements des religions qui demandent, qui prêchent une fraternité universelle, ben on est resté malheureusement à ces niveaux où on préfère que ce soit les miens qui passent et pas les enfants.
Même s'ils ont échoué, mais parce qu'ils sont de mon village, alors on les fait passer.
Mon mieux pour qu'ils passent, ouais.
On va accueillir des auditeurs, François Kabeya depuis Lebo et Paulin Kamanga de Kananga. François Kabeya, bonjour.
Bonjour monsieur, je dis bonjour aussi à l'invité, à tous les auditeurs.
Nous
bonjour.
Parlons de la lutte contre la corruption en milieu universitaire. Qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Ok, c'est très intéressant par rapport au sujet du jour. Vous savez, en milieu universitaire, nous tous ici, nous avons été victimes de la corruption au travers les professeurs et autres enseignants qui nous demandaient l'argent, disons ça. Vous savez, la corruption, on n'en parle pas non seulement de l'intelligence, mais aussi du gouvernement encore. C'est à la base de la corruption à l'université. Vous savez, lorsqu'un enseignant n'est pas bien payé, alors il est buté à la corruption. Tout cela cause des anomalies au niveau de l'institution ou de l'université, quoi. Et puis encore, lorsque l'étudiant ne se concentre pas, par exemple, on a donné l'horaire des examens, il s'hasarde pour s'aventurer, croyant que non, comme on a l'argent, on peut courir derrière l'enseignant, et tout cela est à base de la corruption. Alors, quant à moi, ce qui est important de finaliser la corruption, c'est que les enseignants soient bien considérés, et surtout que le gouvernement mette en place ses engagements qu'il tient avec les enseignants, disons ça.
D'accord. Merci François, qui nous dit qu'il faut que les enseignants soient bien traités, et c'est là à mettre fin à la corruption. Paulin Kamanga, vous êtes à Kananga, bonjour.
Bonjour monsieur Jolie.
Oui, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à la lutte contre la corruption en milieu universitaire?
Cette lutte doit d'abord commencer par rapport au pays des enseignants. Ce qui fait que les enseignants se laissent tromper petit tout. En ce qui concerne les points sexuellement transmissibles, ce qui s'est fait appeler par tout le monde.
Oui.
Les filles s'intéressent parce que moi, je suis étudiant dans une promotion montante de la faculté de médecine, ici à Kananga. Mais ce que j'ai constaté est que les enseignants se font tromper eux-mêmes, soit par les filles, ou soit par les femmes, et aussi par de l'argent. Ce qui s'est fait aujourd'hui est que quand vous payez, si vous n'avez pas payé sur la bise, cela s'est fait. C'est fait un problème. Si vous n'avez pas payé le service, tout le monde vous ramène de l'argent. ou échouer dans un cours, ceci et cela. Mais ce que je connais, que les enseignants doivent être payés très mieux. Mais il y a de ces enseignants aussi qui sont qui ont ces comportements-là qui est bizarre. C'est-à-dire quoi? Ils recherchent les noms des filles qui font ceci et cela, ce que je ne peux pas dénoncer ici. Donc, ce que je pouvais demander à notre invité,
oui.
c'est qu'ils nous disent réellement ce qu'il faut faire, par rapport à ce que non. Les enseignants qui viennent enseigner dans nos universités, parce que nous invitons des enseignants partout ailleurs ici dans nos universités du Canada, qu'ils viennent avec un comportement qui est décent, les parents, oui, bien sûr. Mais quand ils viennent avec un comportement, c'est que non, les filles deviennent pour elles, pour être plutôt des objets à utiliser. C'est ce qui nous fait très mal ici.
D'accord, merci. Jean Bayanini de Kikwit, bonjour.
Bonjour Jody, bonjour à toute l'équipe de Okapi Service. Merci pour le travail à baptiser.
Bien, on vous écoute. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à la corruption en milieu universitaire?
Je commence d'abord par un témoignage.
Oui.
Il y a une cousine qui, avec qui nous avons passé tout le temps à l'université. Alors vraiment, c'est une fille très timide qui ne connaissait absolument rien. Et je dois vous dire que même pour préparer ses leçons, comme nous sommes des enseignants, il fallait qu'elle vienne jusqu'en bas pour voir ce qui était au niveau des graduats, alors qu'elle était déjà licenciée. Donc, elle ne sait ni préparer la leçon. Tout ça pourquoi? Parce que pendant toutes les années, pendant tout le temps qu'elle a passé au niveau de l'ISP, donc ce ne sont que des enseignants, parce que c'est une femme. Vous savez que le sexe, c'est un appât pour ceux qui sont faibles dans cette matière-là.
Oui.
Moi, je suis en train de me poser une question. Je demande à l'invité qui est même sur le plateau. Parce qu'il y a des enseignants qui sont connus, corruptibles, mais je ne sais pas quel effort que les institutions sont en train de fournir pour ne pas enlever tous ces gens-là. Parce que nous sommes en train de déplorer les niveaux d'études. Actuellement, aujourd'hui, quand vous voyez même les gens qui terminent, je connais des amis. Moi, je fais le français. Donc, vous savez qu'il y a des femmes qui terminent. Mais tout au long de l'année, elle ne parle que Kikongo ou alors les Lingala. Je dis qu'il faut mettre hors d'état de nuire tous ces gens-là qui sont assoiffés d'argent alors qu'ils ont des salaires. Ils ont des salaires. Ils sont d'ailleurs bien par rapport à ces étudiants-là, par rapport à leurs parents, parce qu'il y a des parents très pauvres que ces enseignants-là.
Oui. Ah, donc,
alors,
d'après vous.
Passer une promotion est égal à l'argent, moi, j'ai dit non. Alors. Quand on aide tous ces gens-là qui n'ont pas un niveau, mais parce qu'ils passent, parce qu'il a l'argent, peut-être parce que c'est une femme, mais c'est pourquoi nous sommes en train de vivre ce que nous vivons aujourd'hui. Alors, nous devons fournir un effort pour enlever cette bassesse-là, cette médiocrité-là.
D'accord.
C'est déplorant aujourd'hui. C'est déplorant parce que moi, tout le temps que j'entends aujourd'hui à la radio Capu, je suis content de l'éloquence. Mais il faut voir ce que font les autres, c'est bizarre. Je crois qu'on doit mettre hors l'état de nuire tous ces marigourins-là qui sont allés pour déformer les enfants. Il y a des gens, quels que soient les cours qu'ils donnent, mais ils savent qu'après, les gens viendront pour donner l'argent. Ils ont même des petits chéris, des commissionnaires, des étudiants commissionnaires qui ont des listes et qui passent partout là, non. Les points sont entre mes mains, venez vous donner autant.
D'accord, merci.
Même les DG, il y a même certains recteurs, certains doyens qui connaissent ça. Mais pourquoi on ne peut pas abolir cette méthode-là?
D'accord, merci Jean Bayanini de Kikwit. Professeur Marcus, vous avez suivi toutes ces préoccupations. Okay. Vous avez la parole.
Oui, merci pour les trois interventions. Les deux premières interventions, l'intervention de François de Ilibo et de Pauline de Kandanga, ont insisté sur la dimension du salaire. C'est un problème réel et il ne faudrait pas négliger cela. Ils ont raison quand ils disent que le maigre salaire que l'État congolais offre aux enseignants
favorise quelque part la corruption.
Oui, donc c'est une des causes. Mais je pense que le problème de la rémunération en RDC, c'est pas seulement un problème des enseignants ou des professeurs d'université. Je crois que pour le moment, la rémunération des professeurs d'université n'est pas très bonne, mais je pense quand même elle est pour le moment bien loin que
beaucoup celle des autres fonctionnaires de l'État.
Je crois que si c'était, ce n'était que cela la cause, on devrait voir que ces pratiques-là devraient partir, mais ça reste. Donc c'est un problème de moralité. Je crois que celui qui vient comme enseignant devrait savoir qu'il est, que l'enseignement c'est d'abord un ministère, c'est un apostolat, comme on dit, au service des valeurs. Donc ça comporte une petite dimension de sacrifice. Mais si c'est simplement, si un enseignant, ben c'est pas seulement pour l'enseignement, pour tout travail. Quand un homme transforme son travail et le réduit simplement à un simple gagne-pain, je crois qu'on a, on perd beaucoup de choses. Je crois qu'il y a quand même un certain aspect de la vocation qu'on ne doit pas oublier, que on aime ceci, on voudrait bien travailler. Je crois que il y a plus.
Et Jean de Kekouk nous dit qu'il y a des enseignants qui sont reconnus corruptibles.
Oui, j'en viens donc. Mais il y a Paulin qui parle aussi des ventes de syllabus comme moyen de corruption. Il a tout à fait raison, parce que ça, c'est aussi un autre aspect de la corruption. Ça n'apparaît pas en tant que tel, ça apparaît comme un droit. Mais quand on regarde toutes les pratiques qui sont derrière...
Derrière ça, c'est une forme de corruption.
Ça devient une forme de corruption. Bon, pour revenir à Jean de Kekouk, concernant les professeurs qui sont reconnus en tant que tels, bon, je pense que la participation des étudiants qui sont victimes de ces pratiques est bien importante. Il faut bien que ils se mettent en groupe pour poser clairement le problème par rapport à tel enseignant. Il a raison de dire que tout le monde sait. Oui, effectivement, dans nos institutions académiques, il y a parfois des enseignants qui sont reconnus et réputés en tant que tels. Mais je ne pense pas que tous les enseignants puissent avoir ces défauts. Donc je crois qu'on peut travailler en échangeant, en discutant avec les autres professeurs pour conscientiser leurs collègues. Mais bon, pour ceux qui ne vont pas comprendre, il faut que les étudiants pose clairement le problème de telle sorte qu'on puisse...
Est-ce qu'il y a déjà eu des sanctions? Parce qu'il dit même certains, les responsables de certaines universités sont au courant, ils connaissent ces enseignants corruptibles qui ont même des petits commissionnaires, des petits vitinda, petits à confiance, comme il a dit, qui font les courses pour eux.
Ça dépend des réseaux. Dans les réseaux catholiques où moi j'ai étudié, j'étais formé, pour les cas de corruption,
c'est sans pitié.
On excluait l'étudiant et on rompait le contrat de travail du professeur. Ça, c'est clair. Je crois que si les autres réseaux adoptent ces systèmes, le problème qu'il pose, lui, sa proposition pourrait bien être prise en compte.
Junior Mukendi nous appelle de Kananga. Bonjour, Junior.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Alors, nous parlons de la lutte contre la corruption en milieu universitaire. Qu'est-ce que vous avez à nous dire à ce sujet?
Oui, voici ma contribution quant à cela. Je veux d'abord la conscience des trois acteurs du développement. En premier lieu, je parlerai de l'État. L'État doit mettre en œuvre ses moyens pour permettre aux institutions de bien universitaires de bien évoluer. Et quant au deuxième acteur, j'interpelle la conscience des professeurs ou les corps scientifiques qui sont habilités à former les hauts cadres de demain. Ils doivent travailler dans la loyauté. Et en dernier lieu, j'interpelle aussi la conscience de ceux qui sont habilités à être formés, les étudiants et consorts. Ils doivent aussi se donner corps et âme pour éviter cette notion de corruption. C'est un peu ça ma contribution que je donne aussi.
Merci, professeur Marcus.
Oui, bon, ok, il a tout à fait raison d'en appeler à la conscience aiguë, je veux dire, de ces trois partenaires, l'État comme pouvoir organisateur de l'enseignement et de l'éducation nationale, les professeurs comme les aînés.
Qu'est-ce que l'État devrait faire exactement?
Bon, l'État devrait commencer par voter les lois qui conviennent, en incluant les sanctions nécessaires pour ces cas-là.
Que si on attrape un enseignant...
Oui, en les appliquant.
Oui.
Donc parfois des lois sont prévues, mais au niveau de l'application, il y a un problème. Au niveau des écoles secondaires, par exemple, il y a les règlements intérieurs qui existent. Bon, au niveau des universités, on pouvait aussi avoir un règlement clair pour où on mettrait ces lois, ces interdictions et leurs sanctions pour que on puisse aller de l'avant et pratiquer cela. Et à côté, donc en plus de lois, on a déjà parlé de la question de la rémunération pour qu'on puisse aller de l'avant. Les professeurs, bon, c'est juste fournir l'effort de se rappeler qu'on est aîné, qu'on est père et parfois mère, et on a la responsabilité de montrer le chemin, le bon à la jeune génération, d'aider le pays à aller de l'avant. On est intellectuel au niveau de l'université, on fait partie de la crème de la société. C'est des gens qui ont étudié, qui sont arrivés à un niveau vraiment supérieur.
Ils devraient être des modèles.
Oui, naturellement, on doit nécessairement être modèle pour montrer les chemins, ne pas être là seulement pour critiquer les autres instances, mais donner le même exemple pour aller de l'avant et considérer que ce qu'on fait là est scandale. On est en train de scandaliser les tout jeunes avec toutes ces pratiques. Et pour les étudiants, je crois qu'ils devraient savoir que les réussites d'aujourd'hui, ça ne vous garantit pas une compétence demain.
C'est ce que Jean nous a dit. À Kikwit, il connaît une dame qui travaille quelque part, mais elle est timide, elle ne parle pas. Mais il se rend compte qu'elle est passée des classes en utilisant les points sexuellement transmissibles.
Et après, ça devient honteux. Vous n'allez pas. Tout le monde va se rendre compte que vous ne valez pas la peine. Et on va peut-être se moquer de vous à côté. Ça ne sera plus facile à récupérer parce que quand vous avez déjà accumulé des faiblesses de ce genre-là, on ne sort.
Cette émission est une rediffusion.
Vous avez des graves lacunes, on ne sait plus comment les combler.
Le jour, le lendemain,
oui. Comment lutter efficacement contre la corruption en milieu universitaire? On en parle aujourd'hui dans Okapi Service avec le professeur Marcus Bindungwa. Il enseigne la philosophie à l'Université Pédagogique Nationale. Dani Kwamba, vous êtes en Mbujimayi et Paulin Poutou à Kananga. Nous invitons aussi les auditeurs de Matadi. Vous êtes à l'Équateur, à Mbandaka, à Kikwit, à Goma, à Kisangani, Lubumbashi et ailleurs. Appelez-nous au 099 706 63 94 pour participer à cette émission de la vie au quotidien. Dani Kwamba de Mbujimayi, bonjour.
Bonjour Monsieur Zoudi, bonjour au professeur aussi aux auditeurs de la radio de la paix.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à la corruption en milieu universitaire?
Monsieur Zoudi, je ne sais pas, justement, désolé, nous quand on était encore étudiants, on pensait que c'était quand même un certain moment une vie normale, mais nous comprenons que cette histoire, ça continue jusqu'au maintenant, là, je ne sais pas, on peut l'appeler renforcement des capacités ou bien c'est quoi, je ne sais pas. Et puis, vous constatez, même les étudiants eux-mêmes, à un certain moment, ils ne se prennent pas en charge. Même si tu crois même l'étudiant qui est très intelligent à un certain moment, mais il ne se croit pas lui-même, il ne se croit pas à être intelligent. Mais quand on parle à un certain moment, on dit non, il y a telle chose à donner. Tu vois, c'est tout le monde qui se sacrifie pour donner, mais cette histoire s'affaiblit presque tout le monde. Tu vois, pas la période des examens, les étudiants étaient circulés en route et puis c'est fini. Demain, là, il est dans l'auditoire ivre, mais à la fin, là, tu te trouves avec des 10 points sur 10, sur 20, et puis les histoires comme ça. Un certain moment, quand tu suis en coulisses, là, on te dit c'était l'enseignant, fait ça. Et puis ça décourageait un certain moment.
Dani,
quand on a fini, et puis ça continue même jusque dans des vies professionnelles. Vous êtes là quelque part, tu vois,
Dani,
c'est même pas écrit, mais tu veux être embauché. Mais on ne sait pas là, on va l'appeler la grâce de Dieu ou bien on va appeler quoi? La corruption là, on ne sait pas comment on peut les qualifier ces derniers temps.
Dani, dites-nous, généralement, les étudiants la payent combien aux professeurs pour passer des promotions?
Ce sont les histoires qui passent avec les profs, les CP, les chefs de promotion, les histoires. Des fois, ils vous disent aussi, non, vous donnez, la professeure a exigé ne plus que 20 dollars. Et puis, quand vous donnez 20 dollars, lui, il va aussi, je ne sais pas s'il retire quelque chose là, il fait venir cet argent, je ne sais pas si c'est 10 dollars au professeur. Ce sont les mafias qui se passent en coulisses là, c'est compliqué. Parce que vous-même, vous n'êtes pas en mesure d'aller voir les professeurs. On va, les professeurs des universités, tu vas commencer par où, monsieur Zodi? C'est compliqué. Ou bien ce sont les assistants, ou bien ce sont les chefs de travaux qui travaillent avec, c'est compliqué.
Voilà, c'est compliqué. Le professeur lui-même n'apparaît pas, mais il a ses petits des confiances qui se chargent de collecter l'argent. Paulin Poutou de Kananga, bonjour.
Bonjour, monsieur. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Kati.
On vous écoute, Paulin.
Oui, merci beaucoup de cette thématique du jour. Moi, je suis tellement très persuadé. Par rapport à ce sujet, je vois que la responsabilité est partagée. D'abord, c'est la première responsabilité revient à l'État congolais qui n'a pas pu songer à améliorer les conditions de vie des enseignants. Donc, s'il faut voir que les salaires que touchent nos professeurs, nos assistants, nos chefs de travaux, ça déplore et ça fait la honte de cette grande république, de ce grand pays qui est la République démocratique du Congo. Et aussi, si peut-être un professeur, un enseignant était mieux payé, ne devrait pas accepter de toucher 10 dollars pour peut-être détruire sa personnalité. Ça, c'est un. Deux.
Paulin, mais l'invité. Paulin, M. Labbé nous a dit tout à l'heure que ce n'est pas vraiment un problème de salaire, mais c'est plutôt un problème de moralité.
Problème de moralité et de la conscience aussi. Il faut que nos enseignants prennent conscience de ce qu'ils font. Est-ce qu'ils aiment réellement ce pays? Parce que si il se fait que nos enseignants là, qui nous donnent cours, qui enseignent nos jeunes gens actuellement, aiment ce pays, ils doivent se poser la question de savoir pourquoi acceptons-nous de céder, de s'impliquer à ce genre de choses pour peut-être nuire les pays. Parce que moi je constate qu'avec la génération actuelle, avec la formation actuelle, je ne pense pas que la RDC peut-être dans les jours à venir pourra accéder à un développement ou soit à un changement plus parfait. Donc il nous faut peut-être prendre conscience et que ce qui est à la base de tout ça, nos enseignants se sont beaucoup plus laissés laisser faire et laisser aller.
D'accord, merci Paulin.
Moi maintenant professeur,
oui.
C'est pas un luxe des marchandises ou soit de vendre les postes avec via le sexe, donc via l'argent, les 5 dollars, 10 dollars pour nuire sa personnalité.
Merci Paulin.
Peut-être faire un constat.
Oui.
La plupart des jeunes gens qu'on a sur le marché, peut-être c'est 50 licenciés qui une universitaire sur le marché. Dans les 50 là, s'il faut compter peut-être une tête ou la tête bien formée ou les têtes bien formées, il faut savoir, ça représente 1 ou 5%.
D'accord, merci.
Pour un grand pays comme la RDC.
Voilà, merci Paulin Poutou de Kananga. Bernard, vous êtes aussi dans la même ville, à Kananga. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à la lutte contre la corruption en milieu universitaire?
Merci Pierre, merci à notre invité, merci à l'invité de l'univers de la société.
Oui Bernard, parlez un peu plus fort.
Je suis Bernard, vous connaissez de la ville de Kananga.
Oui, on vous écoute.
Oui, c'est la corruption.
Oui, Bernard, désolé, la communication n'est pas très bonne. Qu'est-ce qui se passe avec la ligne? Veuillez vous déplacer ou rappelez-nous plus tard avec un autre numéro. Professeur Marcus, vous avez suivi un commentaire par rapport à ce que les auditeurs viennent de dire.
Oui, il y a un élément qui apparaît chez Dany de Mbujimayi et Paulin de Kananga, c'est les implications, les conséquences néfastes de cette pratique par rapport au développement du pays. Dany dit qu'on est en train de diminuer, de réduire le sens de l'effort au travail auprès de la jeunesse. Mmh. Et quand déjà jeune, au moment où on a encore le sang chaud.
On a encore de l'énergie.
Oui, donc quand on perd ce sens de l'effort pour aller vers des facilités, alors donc ça signifie que c'est toute la génération de demain qu'on est en train de détruire. Donc c'est l'avenir du pays, c'est son développement qu'on est en train vraiment de piétiner avec cette pratique. Le fait même que, vous l'avez dit, le prof se cache, il sait que c'est ridicule. Ça, c'est symptomatique. Mmh. Ça révèle que le prof est conscient.
Que c'est pas bon, il fait mal,
c'est ça. Il est conscient qu'il fait mal. C'est comme ça que, bon, pour éviter les ridicules,
il envoie
d'autres gens aller
les
faire
CP,
ce travail ridicule.
Chef de promotion, les assistants.
Donc
il
ça
est
signifie quand même qu'on est conscient de ce qu'on fait. Et quand on sait qu'on fait mal, mais on fait quand même, je crois que là, c'est une circonstance aggravante qui devrait amener nos institutions académiques à sanctionner un peu fort ce côté-là. Voilà, c'est que le commentaire que je peux dire. Mais donc, j'insiste encore sur.
Donc, si la corruption continue, c'est parce qu'il n'y a pas de sanctions. Il y a beaucoup plus l'impunité. Et puis bon, ça continue quoi.
Dans une société, quand il y a des lois mais qui ne sont pas appliquées, quand il y a des sanctions mais qu'on n'applique pas comme il se doit, ou quand il n'y a pas de sanctions, en réalité, ben, ce sont les vices qui vont augmenter en quantité.
Comment lutter contre la corruption en milieu universitaire? Adrien Amouyeti, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jody Daniel Kanchama. Bonjour aussi à l'invité, monsieur le professeur Marquis.
Bonjour.
Quelle est votre préoccupation par rapport à ces sujets?
Merci beaucoup. Merci Jody. Premièrement, d'abord, j'aimerais dire aussi que je suis étudiante L1S Communication des organisations à l'Université Liberté. Moi, j'aimerais dire quelque chose au professeur Marquis. Premièrement, depuis que j'étais à l'université, moi, je n'ai jamais senti... D'abord, ici, là, chez nous, à l'Université Liberté, je n'ai jamais senti la corruption. Si cela se passe en coulisses, je ne sais pas. Mais mon problème, Anne, que là où la corruption passe, moi, je pense que c'est un problème. Premièrement, d'abord, c'est la pauvreté. Si vous niez... Si vous êtes contre ça, je suis désolée, mais c'est la pauvreté. Et surtout, ceux qui font ça, ce sont des assistants. Imagine un assistant qui n'est même pas bien payé. Alors, qu'est-ce qu'il va faire en retour? C'est la corruption et faire tout ce qu'il faut là. Alors, j'aimerais aussi dire quelque chose comme une question, parler de la corruption en milieu universitaire, c'est-à-dire de longtemps. Mais jusque-là, il n'y a pas de solution, surtout ici chez nous en RDC. Et vous avez dit que, parce qu'il y a, vous avez comme réponse, c'est parce qu'il n'y a pas de sanctions. Alors, sur ça, comment faire pour qu'il y ait des sanctions? Parce qu'on en a marre. Des fois même, là où il n'y a pas de corruption, parce que parce que nos voisins ou bien l'autre université, la corruption règne. Donc, on est en train de généraliser les universités de la ville. Cela nous fait très mal. Et c'est tout ce que je voulais dire.
Merci, Adrien Amouyeti. Ingénieur Bangoyo, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, M. Jordi.
Alors, d'après vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter contre la corruption, efficacement contre la corruption en milieu universitaire?
Ah, M. Jordi, je vous assure, ça c'est vraiment de l'opium, la corruption. Hein. Je crois que l'État doit beaucoup s'investir. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est ici l'occasion pour moi de féliciter l'actuel ministre de l'enseignement supérieur, le camarade Steve Bikay. Je vous rappelle que c'est un sénégaliste de formation. Hein. Alors, je le félicite. Parce que le gouvernement a une grande part de responsabilité. On a parlé ici des choses, des salaires. Non, ce n'est pas un problème de salaire, c'est un problème d'éthique. On peut beau augmenter les salaires des professeurs, mais cela ne va pas mettre fin à la corruption. La corruption a gangréné notre système éducatif. Vous savez, aujourd'hui, un pays qui néglige son système éducatif n'a pas d'avenir. Parce que l'ignorance, il faut le combattre. Il faut combattre l'ignorance. Mais alors, moi, je crois que, regardez par exemple pour le cas des paiements des frais académiques. Le ministre qui fait un effort pour s'approcher de la population. Mais vous voyez le taux, chaque institut, chaque université fixe son taux. Mais il a pris le courage de dire non, parce que la population souffre. Et c'est de là d'où provient la corruption. Alors, ils amassent beaucoup d'argent. Et le professeur continue à se plaindre. C'est pas correct. Il dit le taux, c'est 920. Mais vous voyez, il y a des étudiants qui vont payer là-bas, par exemple, c'est le cas de l'ISP Gobé, ils vont là-bas, on leur dit non. Et là, à la banque, c'est le banque qui est chargé de recevoir l'argent, et il va leur compliquer la situation là-bas. C'est vraiment triste. Donc il faut que le gouvernement intervienne. Il faut que le gouvernement ait le pouvoir organisateur fasse tout pour que l'argent ne puisse pas être, disons, un élément essentiel dans notre système éducatif. Parce que le système éducatif, ce n'est pas un but lucratif. Mais maintenant, on constate que l'argent maintenant prime au niveau des renseignements. C'est pas correct. L'État doit prendre ses responsabilités en tant que pouvoir organisateur et combattre la corruption à partir des décisions que prennent le ministre des Sous et le ministre des PSP aussi doit l'emboîter le pas. Parce que ça ne peut pas continuer comme ça.
Merci, ingénieur Mangoyo de Kinshasa. Comment lutter contre la corruption en milieu universitaire? Michel Kanda, vous êtes à Mbujimayi. Bonjour.
Bonjour. Bonjour Radio Okapi.
Alors, dites-nous, dans les universités de Mbujimayi, la corruption règne aussi, Michel?
J'ai d'abord un témoignage, puis je vais poser aussi ma préoccupation. Oui. D'abord, pour témoignage, il y a 3 ans, à l'université officielle de Mbujimayi, j'ai vu, il y avait un enseignant de la faculté de médecine qui avait laissé les copies d'examen à la portée peut-être de ses enfants, et l'un de ses enfants qui était en contact avec les étudiants de la promotion, il est allé, ils ont manigancé pour essayer de remplacer les copies qu'ils avaient échouées sur d'autres copies. Et malheureusement, tout avait tourné en bourrique pour ces étudiants. Et après, j'ai vu cet enseignant être sanctionné par la commission disciplinaire de l'université. Pendant 3 ans, il n'a pas presté. C'est un cas un peu encouragé. Alors, ma préoccupation que je voulais poser, c'est que je constate aussi qu'avec la multiplicité des universités, il y a une certaine concurrence qui s'élève, dans le sens que même si l'enseignant pouvait avoir une rigueur sur les étudiants, je constate qu'il y a des recteurs, des directeurs généraux des universités, soit des secrétaires académiques, qui, lorsque l'enseignant dépose la liste des comptes, s'il y a beaucoup d'échecs, on interpelle cet enseignant pour lui dire pourquoi il y a trop d'échecs comme ça. Alors que, par crainte que s'il y a des échecs, les étudiants vont quitter ces institutions pour aller ailleurs. Cette multiplicité des universités et des institutions supérieures devient encore, quelque part, un motif de fragiliser l'enseignement et ça favorise une certaine corruption. J'ai tapé une corruption au niveau des universités, au niveau des responsables des universités. Voilà, oui. Mes préoccupations.
Merci Michel Kanda de Mbujimayi. Maître Machaka, vous êtes à Lubumbashi. Nous parlons de la lutte contre la corruption en milieu universitaire. Bonjour.
Bonjour Monsieur Jody et bonjour à l'invité.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire, Maître Machaka?
Merci beaucoup, Monsieur Jody. Vous savez, la corruption, c'est quelque chose qui est en train de pourrir notre enseignement. Aujourd'hui, ce que moi je peux proposer, Monsieur J. et Monsieur Jody, vous savez, les églises aussi doivent s'impliquer dans cette situation-là, puisque beaucoup de gens oublient que la corruption, c'est un péché. Ils trouvent que c'est tout à fait normal. Et hormis l'État congolais qui doit mettre le garde-fou en sanctionnant les professeurs qui règnent, qui c'est le tireur dans la corruption, il faut aussi que les églises puissent faire voir au peuple congolais que corrompre, c'est un péché devant Dieu. Hormis la sanction ici, dans le monde, dans l'au-delà aussi, ils seront aussi sanctionnés. Puisque je vous donne l'exemple, monsieur Jody. Nous, quand on était à l'université, en premier graduat ici à l'université de Lubumbashi, il y avait certains enseignants qui étaient sanctionnés à cause des corruptions. Et on avait même annulé la délibération. Quand on s'était rendu compte que ces professeurs-là donnaient les points au hasard, sans corriger seulement aux gens qui donnaient de l'argent. Une sanction s'était tombée, les professeurs étaient sanctionnés, inscrits de l'université pour un certain temps, monsieur. Les gens qui ont passé cette époque-là à l'université de Lubumbashi, ils le savent, monsieur Jody. D'où l'État congolais doit prendre ses dispositions, les églises aussi doivent aider l'État congolais à faire voir au peuple congolais à tous les niveaux que la corruption est un péché. Celui qui est croyant, il doit s'écarter de la corruption, monsieur Jody.
D'accord.
Voilà au moins ma contribution.
Merci, maître Machaka de Lubumbashi, monsieur l'abbé Marcos Bino.
Ouais, merci pour toutes ces interventions. Je vais commencer par Adrien de
Lubumbashi.
Lubumbashi, bon, qui pense que c'est un problème, bon, qui insiste sur le fait de la pauvreté.
La pauvreté, oui.
Bon, pauvreté de qui, naturellement, la pauvreté des enseignants. Parce que bon, si les jeunes payent, c'est pas qu'il manque pas d'argent, parce que s'il manquait, ils paieraient pas, donc il n'y aurait pas de corruption. Donc ça signifie la corruption de la personne qui est, la pauvreté de la personne qui est corrompue. J'ai dit par moment c'est un aspect important, mais je crois que fondamentalement c'est d'abord un problème de dignité. Quelqu'un a parlé d'éthique, moi j'ai parlé de moralité. Donc c'est d'abord cela. Et quand on a cette moralité, quand on a ces sens éthiques, et quand on a ces sens de la dignité,
on va pas se rabaisser jusqu'à ouais, ce
qu'on
niveau-là.
Qu'on vous ajoute de l'argent, qu'on ajoute pas d'argent, mais au moins il y a quelque chose que vous allez tâcher de sauver. Ce n'est pas auprès des jeunes qu'il faut aller trouver l'argent que l'État ne vous donne pas. C'est un mauvais jugement. Si celui qui doit me donner l'argent, c'est l'État. Ici, il ne me donne pas cet argent et moi, je me rabats auprès de plus faibles. C'est un mauvais jugement. Donc, je crois que c'est pas comme ça. C'est même pas juste. Mmh. Ce que je devais faire, c'est une pression auprès de l'État et non pas réduire les jeunes en des corrupteurs tout en connaissant les conséquences lointaines et même
c'est pratique,
peut-être,
hein.
Oui, même peut-être immédiates de ces pratiques, pardon.
Mais je me réjouis du fait qu'il y a, en écoutant les auditeurs, il y a eu quand même des sanctions à Mbujimayi et à Lubumbashi. Il y a eu aussi il y a toujours quelques cas de sanctions.
Si je vous ai parlé de l'université catholique, par exemple, au Congo qui ne tergiverse pas.
Dès qu'on a des preuves.
Oui, quand on a des preuves, évidemment.
C'est fini, il y a la sanction.
Puisque la matière a aussi un aspect juridique, ce n'est pas parce qu'un étudiant a dit que tel professeur m'a proposé une corruption ou quoi qu'on va croire à ces déclarations directement. On fait toutes les vérifications et quand on a toutes les preuves que le professeur s'est compromis dans cette pratique-là, on résilie son contrat avec cause d'immoralité. L'Église catholique n'assume pas, n'accepte pas de ce côté-là, du côté des éducateurs surtout. Ça, c'est déjà du côté de tout jeune, de tout petit, au niveau du secondaire, on exclut. Il y a plus forte raison à l'université, à fortiori encore, du côté des professeurs. Donc je pense, elle dit que c'est une pratique. Bon, qu'on ne généralise pas, elle a raison, oui, elle a raison, on vient déjà de le dire. Pour l'ingénieur Mangoyo, dans ce qu'il a dit, il pose le problème, ce problème-là de la parité en félicitant le ministre. Oui, bon, le ministre peut être félicité d'un côté, mais de l'autre côté, ça reste un problème entre le taux de la vie et le taux qui est appliqué,
qui est appliqué à l'université.
Si la différence n'était que de petits sous, on comprendrait, mais la différence est énorme. De 920 à 1650, c'est quand même 700. C'est beaucoup d'argent et ça déstabilise même la rémunération de l'enseignant. Imaginez-vous, je vais vous donner un cas concret. Je donne un cours en parallèle dans une institution justement de l'État. On dit, bon, écoutez, une heure c'est 10 dollars. Ok, d'accord, une heure c'est 10 dollars.
C'est 10 dollars.
Mais après, quand on paye les heures, je me réalise que pour un cours de 30 heures, ce n'est pas 300 dollars que j'ai eu, c'est peut-être 180 dollars que j'ai eu. Donc tout ça, les institutions académiques sont exposées à ce problème-là. Si le ministre prend une décision pour aider les étudiants, ok, très bien, bravo, mais il doit aussi regarder l'équilibre, cet équilibre-là de taux au niveau du fonctionnement des institutions, parce qu'il y a déjà des règles qui sont là depuis un certain temps, qui disent par exemple pour tel cours vous avez autant, et ça fait problème, ça fait peut-être même un tiraillement entre ces institutions, donc la gestion financière de ces institutions et les services qui sont en train de payer auprès d'autres enseignants qui ne sont pas les enseignants de leur institution, et ça fait problème.
Quelqu'un a parlé tout à l'heure de la multiplicité des universités, des établissements qui seraient aussi à la base de la corruption.
Michel de Mbujimayi. Oui, bon, on a pratiquement les mêmes problèmes au niveau. Ça commence déjà au niveau de l'enseignement maternel, primaire et secondaire. On court avec le fait que les réseaux privés à un nombre d'écoles, d'institutions scolaires et académiques plus grand que les réseaux de l'État, les réseaux officiels. Mmh. Alors, au niveau du privé, la gestion d'une institution privée dépend du Minerval, des frais scolaires et académiques que payent les élèves, alors, à travers leurs parents. Bon, et c'est cette difficulté qui va jusqu'au niveau académique.
Académique, oui.
Puisqu'on court derrière les populations pour couvrir les budgets, eh bien, il faut... on laisse passer certaines choses.
On ferme les yeux,
ouais, voilà. Sur certains échecs. Bon, là, c'est là que l'État devrait intervenir avec un certain degré de financement des institutions privées qui sont en train de l'aider dans ce fonctionnement-là. Mmh. Donc, je crois que
Terminer avec Maître Machaka de Lubumbashi qui dit que les églises doivent aussi s'impliquer, conscientiser les fidèles, leur dire que la corruption est un péché.
Naturellement, oui, pour les croyants, hein, parce que c'est pas tout le monde qui est croyant, c'est pas tout le monde qui appartient à telle église, etc. C'est comme ça que je préférais parler de toutes les institutions éducatives. Chargée d'assurer l'éducation, c'est-à-dire, comme disent les philosophes de l'éducation est essentiellement une transmission des valeurs aux jeunes générations, pour qu'elles puissent savoir comment devrait se comporter un homme digne, dans une femme digne dans la société.
Les églises éduquent aussi la population.
Oui, les églises, dans tous les livres sacrés, il y a une dimension de la morale. Parce que il y a un comportement qui est dicté pour celui qui est chrétien, qui est musulman, etc. Mais seulement que, bon, au niveau des églises, les morales sont parfois différentes. Il y a des morales qui sont différentes de part et d'autre. Il y a des églises pour lesquelles tuer, ce n'est pas nécessairement... Bon, enfin, disons des religions pour lesquelles assassiner, tuer, ce n'est pas une faute grave pourvu qu'on le fasse pour ceci, pour cela, pour Dieu, etc. Il y en a d'autres qui ne sont pas d'accord.
Mais au moins, pour la corruption, tout le monde est d'accord.
Pour la corruption, c'est clair que...
C'est pas une bonne chose.
Toutes les religions plutôt acceptent que ce n'est pas... une valeur, c'est un
alors,
petit valeur.
Pour terminer, monsieur Labien, donc pour lutter efficacement contre la corruption, il faut l'implication de tout le monde, de l'État, monde, des églises, des institutions universitaires, que tout le monde s'implique pour freiner ces fléaux.
Des étudiants eux-mêmes
aussi peuvent dénoncer.
Ils doivent travailler pour ne pas attendre cette corruption. Parce que si un étudiant travaille, il réussit. Je peux comprendre le cas d'Adrienne, peut-être que c'est une étudiante brillante qui n'a pas de raison, qui ne voit pas pourquoi il doit aller voir un professeur, parce que elle fait de son mieux pour réussir tous ses cours. Oui, donc c'est une des solutions du côté des étudiants. Mais si on est exposé, malgré ses efforts, malgré nos efforts comme étudiants, nous étudions, nous travaillons, nous faisons les TP, etc. Mais le prof tient nécessairement, c'est quand nous lui donnions de l'argent et ne tient pas compte de nos travaux. À ce moment-là, il faut qu'il y ait une certaine solidarité de la jeunesse, parce que la jeunesse qui est là, ce n'est pas des mineurs, c'est des majeurs. Donc, c'est des personnes qui peuvent porter plainte sérieusement, surtout qu'ils sont organisés. Il y a une organisation, il y a un
comité des étudiants. Oui.
Chaque classe a un CP, un adjoint, et des conseillers, peut-être même un financier. Donc, ils sont organisés. Et il y a moyen que ce comité-là pose le problème là où il faut, notamment en secouant un peu le comité des professeurs, parce que dans chaque université, il y a
un
comité des professeurs. En secouant ce comité-là, dans le dialogue entre le comité des étudiants et le comité des professeurs, on peut obtenir que les professeurs, entre eux, s'interpellent, parce que parfois, ils se connaissent et ce que l'autre fait, on le sait. Mais c'est peut-être par pudeur pour ne pas gêner l'autre. Non, ce n'est pas tellement se couvrir. Oui. C'est parfois éviter le problème.
D'accord.
Éviter de conflits.
Des conflits. Professeur Marcus Bindungwa, enseignant de philosophie à l'Université Pédagogique Nationale, merci d'avoir répondu à notre invitation et à la prochaine.
Je vous en prie.